Vous écoutez un QDM de poche, un mini-épisode sur un objet culturel à la sauce Quad Meuf, le podcast féministe et intersectionnel. Accompagnée de l'une de mes acolytes, on parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Pauline Verduzier.
C'est parti! Bienvenue dans cet épisode court, on est avec Pauline Verduzier. Salut!
Salut Clémentine!
Alors cette semaine, on va vous parler du nouveau film de Yorgos Lanthimos, qui s'appelle La Favorite, et qui sort en salle le 6 février. Alors il faut savoir que le film est également nommé pas moins de 10 fois aux Oscars, ce qui n'est pas forcément un gage de qualité d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, il est nommé à la fois dans la catégorie meilleur film, meilleure réalisation, meilleure actrice et deux fois meilleure actrice dans des seconds rôles. Voilà.
Il s'avère que je peux être parfaitement déplaisante.
Donc Yorgos Lanthimos, pour rappel, c'est le réalisateur de The Lobster.
Have you thought of what animal you'd like to be if you end up alone?
Yes, a lobster.
A lobster is an excellent choice.
Ou encore La Mise à mort du cerf sacré.
A surgeon never kills a patient. An anesthesiologist can kill a patient, but a surgeon never can.
Alors, de quoi s'agit-il dans La Favorite? Donc, c'est un film en costume qui est une histoire vraie, attention.
True story.
Donc, ça se passe au XVIIIe siècle, dans une Angleterre qui est gouvernée par la reine Anne, la dernière de la dynastie des Stuart, et qui est jouée par Olivia Colman.
Ils me fixaient tous, je le sais, même sans l'avoir vue, et j'ai entendu le mot grosse,
Anne.
Et laide.
Sa confidente et bras droit, qui est aussi sa maîtresse, spoiler, est la duchesse de Marlborough, donc c'est Lady Sarah Churchill, l'une des femmes les plus influentes du pays, qui exerce en fait le pouvoir un peu à la place de la reine, et donc elle est interprétée par Rachel Weisz.
Très chère reine, mais vous êtes folle, allez m'offrir un palais. Ceci est une monstrueuse extravagance, Madame Morlaix, nous sommes en guerre.
Et un jour, la vie à la cour est troublée par l'arrivée de la jeune et belle Abigail, une ancienne lady déchue et une cousine lointaine de Lady Sarah, qui est jouée par Emma Stone. Et donc celle-ci débarque, déboule même au palais, avec la très ferme intention de gravir les échelons du pouvoir et de retrouver son rang aristocratique.
Si j'étais un homme, je vous enlèverais.
Et donc au début, elle est soubrette et voilà, ensuite, ça va évoluer. Et donc la reine, qui se trouve délaissée par Sarah, finit par s'intéresser à cette petite rouée d'Abigail qui fait tout pour se rapprocher d'elle et pour avancer ses pions avec l'aide des membres du gouvernement. Donc en fait, le film va vraiment tisser son fil entre ce trio et raconter l'histoire vraie des rivalités qui ont opposé ces trois femmes sur fond de guerre entre l'Angleterre et la France.
Résumé très complet. Et pour la petite anecdote, la productrice du film, donc il y a beaucoup de femmes qui ont travaillé sur ce film, la productrice donc Ceci Dempsey, qui porte le projet, a eu beaucoup de mal en fait à le financer à cause du contenu lesbien,
ouh là là,
et à cause du peu de rôles masculins.
Ouais. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé puisqu'on l'a vu toutes les deux?
Moi, j'ai beaucoup aimé l'introduction du film, en fait, justement, cette arrivée d'Abigail. C'est très immersif et séduisant. Donc, on voit Emma Stone, qui est couverte de boue, il me semble, débouler au palais et au milieu des robes de taffetas.
Veuillez excuser mon apparence. J'avais espéré être employée ici par vous, comme il vous plaira.
Comme monstre pour amuser les enfants, par exemple.
Et la réalisation, elle est hyper travaillée. Alors, ça peut paraître un peu ampoulé, mais c'est intéressant parce qu'il y a plein de plans qui sont assez vertigineux, qui bougent dans tous les sens. Il y a un effet fish eye, c'est-à-dire qu'on dirait qu'on voit l'image à travers une sorte de bocal.
Ouais.
Donc tout ça, ça nous met très vite dans l'ambiance. Il y a le faste des décors et des costumes qui sont très bien filmés. Et aussi, un aspect un peu gore parce que la reine est atteinte de la goutte.
Ouais.
Et elle souffre énormément et il me semble
et
qu'elle...
Et elle mange tout le temps des gâteaux alors qu'il ne faut pas...
Gâteaux. Et on est très vite plongé dans cet univers qui est très sensoriel. Et surtout, on comprend qu'on va suivre les principales protagonistes qui vampirisent tout l'écran, effectivement, et qui relèguent les personnages masculins au second plan. On a la reine Anne, qui est vraiment un personnage atypique de reine, parce que c'est une femme neurasthénique, entourée de ses lapins, et qui a perdu 17 de ses enfants en couche, ou après l'accouchement. Et donc, elle porte cette souffrance, et c'est un personnage intéressant qui est absolument absolument pas lisse. Elle hurle, elle pleure, elle geint, elle boulotte plein de gâteaux, tu l'as dit. Elle s'évanouit quand elle doit prendre la parole. Donc c'est vraiment un personnage...
Comme moi.
original de reine qui sort des carcans, comme les autres personnages d'ailleurs, avec Lady Sarah, qui est une femme de pouvoir qui adopte les codes masculins de l'époque, de l'aristocratie.
Oui. Allons tuer quelque chose. On a du mal parfois à se souvenir si l'on a chargé le pistolet ou pas.
Et Abigail, qui est une sorte de Rastignac au féminin aristo, qui est très cruelle.
Je suis toujours dans le même camp. Le mien.
Moi, de mon côté, j'ai surtout été assez séduite par le casting qui est assez croustillant. Donc pour cette comédie grinçante, un peu rablaisienne de par ses excès. Mais j'ai bien aimé aussi de voir les coulisses du pouvoir vues par le petit bout de la lorgnette. Bon, c'est pas très très original, mais je trouve ça toujours très plaisant de voir tous les étages, donc du lit de la reine jusqu'aux cuisines, aux pots de chambre, aux caniveaux, à travers, dans ce cas précis, le parcours d'une intrigante donc, qui va s'élever à la cour. Ce côté grandeur et décadence, c'est un procédé qui était déjà utilisé notamment dans Les Adieux à la Reine de Benoît Jacquot, dans Gosford Park de Robert Altman, qui montrait le rapport entre maître et domestique.
Oui, cet aspect-là, il est hyper intéressant de voir les choses, enfin le lieu du pouvoir que peut être aussi la chambre et le palais. Et en plus, Lanthimos dépoussière le film en costume en y mettant pas mal de modernité, notamment par le langage, donc il mêle une langue châtiée et de la grossièreté.
On se souvient de cette réplique, ça pue la foufoune.
Oui, voilà. Il y a plein de mots crus, de références sexuelles, scato même, une manière très directe de parler entre les femmes. Et d'ailleurs, il a fait répéter les comédiens en décorrélant les actions du dialogue pour les désarçonner. Et on a des références au viol qui sont assez cash. Ça, je ne pense pas avoir vu une scène comme ça dans un autre film en costume, avec une scène dans laquelle Emma Stone, qui est convoitée par un homme de la cour, se bat avec lui et lui interdit de la toucher sans son consentement. Donc ça, c'est assez marquant. On a aussi des scènes de chasse avec Lady Sarah et Abigail, qui vont tirer en fait des pigeons en habit de chasse.
Tout en se tirant dans les pattes.
Voilà, tout en se tirant dans les pattes. Et donc Sarah porte le pantalon, elle porte le chapeau. Enfin voilà, il y a tout un rituel, une ritualisation assez masculine de leur comportement. Et franchement, ça change, ça fait du bien. Ça change des bluettes qu'on a l'habitude de voir dans les films en costume.
Ouais, et surtout vive l'Angleterre où on a quand même des reines au pouvoir, contrairement à la France. Et oui. C'est un pouvoir féminin qui n'est jamais contesté, en tout cas dans le film. Et tu l'as dit, ces personnages féminins prennent vraiment toute la place parce que c'est elles qui dirigent. Et on a donc un quasi huis clos entre leurs chambres. Et les hommes dans le film sont vraiment des faire-valoir, des motifs comiques qui tiennent le second rôle. Et je trouve que le cinéaste joue assez finement sur les codes du genre, notamment puisque les intrigues amoureuses qui se passent entre au début ces deux femmes puis ces trois femmes relèguent vraiment les liens hétérosexuels au second plan.
Et est-ce qu'on a des réserves quand même sur ce film ?
Oui, alors l'enthousiasme n'est pas non plus dithyrambique sur ce film, puisque dans sa deuxième partie, il vire de manière un peu systématique à un tir croisé en fait entre ces femmes, et donc le comique du début est remplacé voilà, par ce seul motif de la rivalité et de la cruauté. C'est un peu dommage parce que ces fortes personnalités et le relief de leurs personnages a tendance à s'effacer pour se concentrer vraiment sur cette animosité. Et même si le film passe le Bechdel test, donc c'est le fameux test qui décide si un film est ou non féministe, donc si les personnages féminins ont un nom, si elles se parlent et si elles parlent d'autre chose que d'hommes. Là, c'est le cas.
Oui, clairement.
Ouais. mais le film préfère finalement le motif du catfight, c'est-à-dire de la bataille systématique entre femmes plutôt que de la sororité. Sans doute parce que c'est plus drôle, mais voilà, c'est peut-être un peu dommage.
C'est ça, et puis la rivalité féminine utilisée comme un motif comique, c'est un poncif en fait de plein de films, notamment des comédies américaines. Là, c'est plus du tout le même genre. Mais moi, j'ai un souvenir choquée de Bride Wars, un film de Gary Winnick.
Donc la guerre des demoiselles d'honneur.
C'est ça, et, qui oppose deux femmes qui veulent en fait avoir le plus beau mariage et qui se disputent robe, salle, à qui va se marier la première. Enfin vraiment, c'est une logorée de clichés. Et je me demande si il faudrait pas un peu laisser ce thème à des réalisatrices, en fait, parce que c'est souvent quand même pas très bien représenté. Ça tombe vraiment dans des travers sexistes.
Oui, pitié.
Ouais. Et alors qu'en fait, il y a des conflits entre femmes qui sont parfois très bien filmés. Donc là encore, c'est pas du tout le même type de film. Mais Lady Bird de Greta Gerwig, ça parlait aussi des conflits mère-fille. C'est aussi un thème du cinéma qui est abordé parfois par des hommes, mais c'est pas toujours bien fait. Et Greta Gerwig en faisait quelque chose de très juste, sans pour autant l'éviter.
Non, contente-toi de la fac du coin. Avec ta vision du travail, va à la fac du coin, puis en prison et retour à la fac. Et là, peut-être que tu apprendras à te prendre en main et à ne plus compter sur les autres pour tout faire à ta place. Ah
donc je pense que c'est possible de parler de rivalité féminine de manière féministe. Après, on pourra rétorquer que tout ça parle d'une histoire vraie, dans le cas de La Favorite, celle de Anne de Grande-Bretagne et Sarah Churchill et Abigail Masham. Mais bon, à quel point le réalisateur a fantasmé ce triangle de rivalité.
Ouais, en fait, lui, il dit vraiment qu'il s'intéresse absolument pas à la véracité historique, quoi. C'est pas son propos. Et d'ailleurs, le film passe vraiment sous silence l'aspect à la fois religieux et l'aspect politique, puisque la reine et Lady Sarah, en fait, ne sont pas du même bord politique, et que donc à l'époque, les Tories et les Whigs, donc la droite et la gauche de l'époque, s'opposent. Et le film n'entre pas vraiment dans les détails. Au détriment de l'histoire personnelle, ce qui est un peu dommage et ce qui dépolitise aussi les motivations de ces personnages.
Oui, c'est ça. En fait, Sarah Churchill, elle était proche des Whigs, donc c'est un parti qui militait en faveur d'un parlement fort en s'opposant à l'absolutisme royal. Et la reine Anne, naturellement, était plutôt Tory, favorable au pouvoir royal. Et en fait, c'est complètement oublié et zappé du film. De même que Abigail est dépeinte uniquement comme une femme assoiffée d'argent et d'un mariage qui lui rendrait ses titres de noblesse. Mais en fait, elle a une vraie influence sur le plan politique. Après, je ne suis pas historienne, mais bon, ça, visiblement, ça a eu des conséquences en termes de pouvoir. Et donc, en fait, le trio, je pense, comme toi, est un peu ramené à des querelles de chambre. Et c'est dommage, parce que d'un côté, c'est sulfureux, parce que disons que ça invisibilise pas la sexualité des femmes et leur rapport entre elles. Mais d'un autre côté, ça passe à côté des oppositions par les idées. Et ça, c'est dommage.
Et pour parler un petit peu de Yorgos Lanthimos, puisqu'on a, peu parlé de sa filmographie, c'est un cinéaste grec qui est installé en Angleterre et qui, à mon sens, fait partie de la famille des grands cyniques, donc comme par exemple Lars von Trier ou Michael Haneke, au point que je trouve leur cinéma peut devenir un peu sentencieux, voire sadisant parfois, et un peu donneur de leçons. Bon, en l'occurrence, je pense qu'il a raison de montrer que le pouvoir se fait et se défait, l'intrigue, c'est une comédie, que la roue tourne, comme on peut le voir en ce moment avec l'affaire Benalla et Macron en France. Mais moi, ce que je lui reproche quand même de manière générale, c'est une tendance à s'enfermer dans des petits systèmes clos, d'avoir une bonne idée de départ et de ensuite ne pas en faire grand-chose. Donc c'était déjà le cas avec son film Canine, qui parlait du huis clos d'une famille qui ne sortait jamais de la maison. Ensuite, dans The Lobster, c'était un univers dystopique où il fallait à tout prix se reproduire sous peine d'être changé en animal. C'était vraiment une très belle idée.
Meilleure idée de scénario.
Ouais,
quoi.
C'est ça. Mais ensuite, le film s'effondrait complètement sur lui-même dans sa deuxième partie.
Ouais, c'était un peu plat.
Voilà. Bon, là, c'est son premier film en costume. Donc, on peut peut-être lui laisser le doute.
Oui, mais c'est vrai que moi, je suis vraiment d'accord avec toi. Le début est brillant et puis en fait, ça s'alourdit et sa noirceur, en fait, elle devient contre-productive. Il n'y a rien pour y échapper et finalement, la fraîcheur et l'audace du début disparaît. Moi, j'avais quand même bien aimé, même si c'est douloureux, son film « Mise à mort du cerf sacré ». C'était un drame contemporain sur une famille frappée par une sorte de sort maléfique. Et on avait déjà une noirceur, un malaise vraiment physique, très sensoriel aussi, provoqué par le film. Mais je trouvais que c'était plus cohérent parce que ça se rapprochait d'une ambiance du film d'horreur. Il y avait une vraie cohérence et une vraie fascination qui s'opérait, même si le film était difficile à regarder, j'avoue. Alors que là, en fait...
Je ne l'ai pas vu.
Ouais. On se complète bien. Alors que là, je trouve que la cruauté, en fait, elle est littérale et répétitive. Et finalement, on retient surtout la première demi-heure du film, en fait. Et le propos dépasse pas trop la cruauté. On insiste un peu impuissant au spectacle de cette animosité entre femmes. C'est un peu dommage.
Mais bon, en tout cas, voilà, allez voir le film. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec nous. En tout cas, nous, on a un peu fait le tour de la question. Merci, Pauline.
Et merci, Clémentine.
Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode long. Salut.
Salut.
Quoi de meuf est une émission de nouvelles écoutes animée par Clémentine Gallo
et Pauline Verdusier,
avec à la réalisation sonore Aurore Meyer-Mailleux, à la prise de son Alexandre Moniol, au montage et mixage Laurie Galigani, coordination Laura Cuissard.